Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe à une cinquantaine de kilomètres de Nice, dans l'arrière-pays de Grasse. Le village s'appelle Thorinque. Il se présente comme une station climatique ou encore comme la Suisse provençale à cause des montagnes autour et du bon air. Avant, on venait y soigner sa bronchite ou sa pneumonie, on y skiait aussi, mais faute de neige, Thorinque a perdu quelques séductions. La famille que nous rencontrons s'occupe d'une réserve d'animaux sauvages où l'on peut voir gambader en toute liberté sur 700 hectares des bisons d'Europe, des cerfs, des sangliers, des chevreuils, des chamois et voler des aigles et autres vautours fauves. C'est l'histoire d'une mobilisation, d'une solidarité qui s'est donc mise en place dans ce village et alentour pour aider un enfant et ses parents. Une histoire sans autre transaction que de la bonne volonté, l'envie d'aider et quelques compétences. Elle est racontée tout de suite par Sophia Fischer. Prendre soin, un village pour élever un enfant, c'est parti.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Alena, j'ai 41 ans et je suis maman d'un enfant autiste. Je vis avec mon mari et le frère de Nicolas dans un domaine que nous avons acquis il y a maintenant une petite vingtaine d'années pour y créer une réserve d'animaux sauvages comme le bison d'Europe, le cheval de Przewalski, les cerfs, les biches. Donc on se trouve à peu près à une heure au nord de Nice, dans les montagnes. Et effectivement, c'est un lieu qui permet à toute la famille, Nicolas compris, d'évoluer dans un environnement assez exceptionnel. Alors, Nicolas, lorsqu'il est né, dès les premiers instants, j'avais compris que ça n'allait pas se passer comme avec les autres. Et il y a eu une période entre 0 et 2 ans, Nicolas ne vivait pas. Nicolas, c'était un paquet de souffrances. Et à ce moment-là, on s'est posé la question de comment on allait envisager son avenir. À l'âge de 3,5-4 ans, il a été accepté à l'école maternelle avec une assistante, avec une AVS bien sûr. Mais parallèlement, on avait intégré une association qui appliquait une méthode comportementale pendant 7 ans. Alors effectivement, on était dans un stade d'épuisement assez extraordinaire parce que Nicolas, depuis sa naissance, il ne dormait pas. Il dormait par des laps de 2 heures. Donc lorsqu'on le couchait à 10 heures, au maximum, on pouvait dormir jusqu'à 2 heures du matin. Et après, c'était un enfant qui était une pile électrique, mais qui bougeait sans raison, un peu dans tous les sens, et qui se rendormait. Et on a été, en plus du manque de sommeil, assez épuisé par les transports et les trajets quotidiens. De 2 ans à, on va dire, 8 ans, il a fait un parcours entre l'école, la maison, les méthodes comportementales, les psychomotriciens, les psychologues, les orthophonistes, où chacun a essayé de faire de son mieux. Et à 8 ans et demi, Nicolas était un enfant qui ne parlait pas, qui ne disait que quelques mots simples. C'était un enfant qui mangeait difficilement. C'était un enfant qui ne pouvait rien faire tout seul. On a commencé à se questionner, j'étais assez désespérée en me disant « Mais cet enfant, il a déjà 8 ans et demi, 9 ans et il est toujours au stade d'un enfant qui a 2 ans et ça ne change pas, il ne parlera pas, il ne pourra jamais rien faire, etc. » Oui. Quand j'ai entendu parler de la méthode des 3 I par la maman de mon mari, elle s'est permise de me parler de la méthode puisque, en tant que grand-mère, elle s'était bien rendue compte que les méthodes qu'on utilisait, ça ne marchait plus vraiment. Et elle a essayé de me guider sur cette idée d'éventuellement aller voir quelqu'un qui applique une autre méthode Alors, la méthode des trois I, elle fonctionne avec un système de bénévoles. Donc, ils viennent jouer à raison d'une heure et demie par semaine avec votre enfant, qui ne connaissent pas forcément au départ, afin de permettre à l'enfant de sortir de sa bulle et de vivre dans notre monde à nous. Donc, on doit d'abord entrer dans son monde pour l'en sortir. Et tout cela, c'est effectivement assuré par des bénévoles, puisque comme l'enfant est, on va dire, isolé dans son cocon sensoriel, il ne faut pas qu'il soit privé de contact avec les êtres humains. Et il est donc important à ce qu'il rencontre plusieurs personnes à rythme régulier qui utilisent tous la même technique et la même méthode pour rassurer l'enfant. Et plus vous avez de bénévoles, plus vous avez pour l'enfant d'exemples de personnes, de comportements et de façons de jouer. Et effectivement, quand j'ai entendu tout ça, on s'était réunis en famille, on a dit est-ce qu'on tente cette aventure ? Et puis on s'était tous entendus sur une chose, c'est qu'on n'avait rien à perdre. Donc je m'étais dit, comment est-ce que je vais trouver autant de personnes qui vont être capables et puis qui auront envie surtout de venir ici, jouer avec un enfant qu'ils ne connaissent pas, et surtout dans l'endroit où nous vivons, qui est quand même très retiré de la civilisation. Alors effectivement, la première phase, c'est de mettre cette annonce dans le journal. On met une photo de Nicolas en disant, voilà, nous avons un fils qui a 8 ans, qui cherche des copains pour jouer avec lui dans une pièce. On explique assez simplement la méthode. On met nos coordonnées téléphoniques, on indique le lieu où on vit et on demande aux personnes qui auraient une heure et demie à donner pour un enfant par semaine à nous contacter. On publie nos portables et puis après, on attend. Et c'est vrai que dès lors que vous savez que l'annonce a été publiée, vous surveillez votre portable en se disant « mets-toi à sonner, s'il te plaît, mets-toi à sonner ». Et quand vous avez la première personne qui était le premier appel que j'ai reçu, et donc il s'est présenté, il m'a dit « voilà, j'ai lu votre annonce, je voudrais venir vous rencontrer, etc. » C'était presque incroyable parce que vous dites « mais il y a des personnes qui vous appellent, elles ne vous connaissent pas du tout et elles veulent venir jouer avec votre fils ». Donc voilà, ça c'était la première phase de un petit peu expliquer après à chaque personne qui nous appelait ben, comment précisément ça se passait. Et puis après, j'ai contacté toutes les personnes qui se sont vraiment fermement engagées en disant, voilà, nous, on a les créneaux disponibles parce que c'est une méthode où il faut jouer avec Nicolas de lundi au dimanche. Hein, il n'y a pas de jour de repos. Et chacun me disait, moi, je peux venir mardi de 10h à 11h30. Ah, moi, je peux venir de 11h30 à 13h, etc. J'ai pensé avoir l'appréhension de laisser Nicolas avec des personnes que je ne connaissais pas, puisqu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Mais je pense que quand les personnes ont cette démarche-là, et quand on les rencontre la première fois pour la réunion de formation, pour les personnes qui ont entendu l'engagement que nécessite cette méthode et qui persistent sans vraiment nous connaître et connaître Nicolas, c'est déjà quelque chose qui m'a beaucoup rassurée. Parce que je m'étais dit, maintenant, c'est des personnes que j'ai vues, j'ai pu discuter avec elles, c'est des personnes qui font de la route, qui reviennent, qui acceptent de jouer avec ton enfant. Elles sont prêtes à donner du temps, elles sont prêtes à être filmées pendant une heure et demie, être, entre guillemets, scrutées après par une psychologue qui va aller décortiquer le film, éventuellement même être appelée par la psychologue qui va corriger, etc. J'étais plus inquiète à ce qu'il craque parce que c'était trop difficile que pour autre chose.
Lire.
Qu'est-ce que tu veux lire ? Je me suis là ? Calme-toi. Ah ben c'est des images, il faut trouver le double. Tu cherches ?
Oui.
Oh la poule. Ouais, il n'y a que des chiens. Hein ? Trouve ceux qui vont avec.
Alors, à vrai dire, la première fois, quand j'ai laissé Nicolas avec le premier bénévole, je suis restée l'oreille collée sur la porte en me disant, mais qu'est-ce qu'il va faire ? C'est une personne qu'il ne connaît pas. Et pendant à peu près une heure et demie, il y avait silence. Et mes sentiments étaient très mélangés, puisque je me suis dit, ben, j'espère que Nicolas ne va pas être violent en se sentant mal, peut avoir des gestes qu'il ne contrôle pas. Et ma deuxième inquiétude, c'était de me dire, ben, la personne concernée va sortir en me disant, ben, j'ai servi à rien pendant une heure et demie, je ne reviens pas. Et c'était mon angoisse, les premières séances un peu avec tout le monde. Et personne n'a osé me parler. Les premières séances, aucun des bénévoles n'est venu me voir en me disant ben, il s'est passé ça ou ça, personne, je me disais ça a été, oui, t'inquiète, ça a été. Et ce n'est qu'au bout d'une petite année ben, que notre cher ami Maurice, d'ailleurs, a osé me dire, mais tu n'imagines pas la trouille que j'avais pour rentrer dans cette pièce en me disant, je vais me retrouver avec cet enfant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je ne sais pas du tout comment il va m'accepter ou pas. Et il m'a dit, aujourd'hui, on a fait du toboggan, du hamac, du ballon, de la raquette, de ceci et de cela. Et il y a un an, il est resté caché dans le coin avec le t-shirt dans sa bouche, m'a regardé.
Tu ne manges pas tes manches, hein?
Non, il mange moins ses vêtements, il est bien là.
Oui, mais j'engueule, moi. Pas qu'il mange les vêtements. Hein.
Moi, j'ai ça fait mal aux dents. Moi, je vais avoir mal aux dents.
Je vais couper. Allez.
Allez, on y va.
Bah, d'abord, tu descends tout seul. Tu me fais voir comme t'es, l'autre fois, t'es bien descendu. Non, ici. Tu descends tout seul. Allez.
C'était pour certaines personnes, des personnes que nous ne connaissions pas du tout. Aujourd'hui, je me permets de dire que ce sont tous des amis. Pour moi, c'est des parrains ou des marraines de notre fils. On est vraiment devenu une grande famille. Pour certains, c'est des personnes qui viennent de Grasse, de Mont-de-Lieu, qui font quand même une heure, deux heures de route pour un aller-retour pour venir voir Nicolas. On a des personnes qui habitent dans le village voisin. C'est des personnes de tout âge, des hommes et des femmes, jeunes, moins jeunes, de toutes professions confondues, qui ont compris qu'en fait, leur geste et leur une heure et demie par jour peut permettre à aider un enfant à vivre mieux dans le monde qui est le nôtre. Aujourd'hui, Nicolas a 12 ans. Alors, on a un enfant qui se prépare son petit déjeuner tout seul, qui va aux toilettes tout seul. C'est un enfant qui commence à constituer des phrases, qui se balade dehors tout seul. Aujourd'hui, Nicolas, c'est un enfant qui rigole 80% de la journée.
Oh, c'est qui ça, regarde? Non, c'est qui, c'est Lloyd?
Pépère!
Oh non, à qui il est Lloyd? Bien?
Pépère!
Non, Pépère est à moi. Lloyd, il a qui? Hein?
Toi!
Anini! Anini! Laisse le cheval, Lloyd.
Il a son rythme, il a ses bénévoles qui sont bien calés sur la semaine, tous avec un créneau bien précis. Il sait pertinemment que le lundi matin, c'est un tel, il sait que mardi après-midi, c'est un tel, il attend, hein. Il sait, il s'est réveillé le matin, il me dit, voir Caro, Maurice, Inès, voir Chantal, Réré, Marie-Georges, il sait. Donc, ne fait plus de route. Ce sont les bénévoles qui font la route. Alors là, maintenant, si nous souhaitons partir le matin au travail, nous faisons la bise à son premier bénévole de la journée, et nous savons que nous pouvons partir tranquillement pour au moins une heure et demie ou pour la matinée. On part l'esprit pas seulement tranquille, mais on sait que la journée ou la matinée servira à quelque chose à Nicolas. Et à partir de ce moment-là, on se sent apaisé parce qu'on a vraiment le sentiment aujourd'hui de faire ce dont Nicolas a besoin. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous êtes porté par cette énergie commune qui émane de cette réunion de bénévoles qui sont tout le temps là, quand bien même ils ne soient pas là physiquement, vous savez qu'ils sont là. Je sais pertinemment qu'à la sortie d'une consultation médicale, je vais avoir 20 textos sur mon téléphone. Comment s'est passée la consultation? Puisque tout le monde est au courant que nous allons chez le médecin et tout le monde veut savoir comment ça s'est passé. Et j'ai même pas besoin, quand nous sommes partis en vacances, première chose, vous êtes bien arrivés, comment ça se passe cette fois-ci pour Nicolas, voilà. Vous avez vraiment autour de vous une grande famille qui mène le même combat. Le combat pour lequel vous étiez seul avant, ben maintenant on est 20. Nicolas fait partie de leur vie maintenant. C'est pas juste un Nicolas avec qui ils viennent jouer, c'est leur Nicolas. Et c'est ça que je trouve qui est beau, parce que cet enfant, il se sent aimé. Et effectivement, il est sans cesse entouré. Et ben oui, c'est un petit village de bénévoles qui est en train d'élever un enfant.
Alors, dis-moi, raconte-moi, tu as fait de l'acrobranche ?
Oui.
Oui, c'était bien l'acrobranche. Et tu as fait de la tyrolienne ?
Oui.
Oui, c'était bien.
Bravo !
Oui, tu as fait des jolies choses encore, ça.
Ah, t'as vu les photos ?
Oui. Ouais.
Ça va être. Tu es allé dans la piscine ?
Oui.
Et dans la mer ?
Oui.
Qu'est-ce que tu as fait dans la mer ? Tu as nagé ?
Oui.
Beaucoup ?
T'as bon. Bon.
Bravo.
C'est le toboggan.
J'ai mis 3 mois pour lui faire bien.
Toi.
Il disait gant, après beau gant. Maintenant, c'est bien, mais j'ai mis 3 mois. Il y a le toboggan, et puis ici, il y a d'autres lacs. Il y a là, la poule. La poussette. La poussette, oui.
Ah,
quoi ? Une vieille poussette, pour en mettre 2 ans.
On vient de passer 15 jours de vacances avec lui. Ça fait 8 ans que nous allons au même endroit. Ça fait donc 8 ans que les personnes qui nous louent la maison où nous allons connaissent Nicolas. Et cette année, c'était la première fois, ils nous ont dit, c'est la première fois que vous êtes venus en vacances à 4. Parce que Nicolas était avec vous. Ouais. Donc c'est extraordinaire parce qu'on découvre un enfant, notre enfant. Quand vous voyez votre enfant qu'on avait condamné au départ à être un légume, puis c'est ce qu'on nous a plus ou moins dit, et quand vous voyez aujourd'hui un enfant qui est capable de répéter une comptine, faire une petite chorégraphie de danse, rigoler, jouer avec son frère, manger à table tranquillement avec nous, enfin, si c'est pas un miracle, il faudrait me dire. Et nous, ça fait 2 ans et demi qu'on a ce fonctionnement-là, où on a notre petit groupe de bénévoles. En fait, l'arrivée des bénévoles dans notre vie a complètement changé notre vie. Je vois mon enfant qui me sourit, qui me parle, qui va bien, qui n'a plus mal, qui est heureux d'être là avec nous. Je n'ai plus ce poids sur les épaules qui me pesait tant tous les jours quand j'ai eu l'impression que je n'allais pas sauver mon enfant. On a apaisé notre vie de famille. On peut dire qu'on commence à avoir une vie de famille classique. Qui se retrouvent le soir autour du dîner, qui se racontent la journée, les enfants jouent dans la chambre pendant que les parents préparent à manger. Voilà, on a retrouvé une vie apaisée avec 2 frères qui peuvent jouer ensemble, qui s'entendent. Aujourd'hui, quand on est tous à table ensemble, je nous regarde comme ça tous les 4 en me disant « mais nous aussi, on a peut-être le droit d'être aussi une famille comme les autres ».
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Maurice, j'ai 70 ans. Quand je suis arrivé ici, j'étais devenu très misanthrope. J'ai eu affaire à l'humain pendant 15 ans dans mon dernier métier et je vous assure que j'en avais un peu ras-le-bol. Donc j'étais venu ici à Torrent pour être tranquille et puis pas forcément voir les autres. Bon. Nicolas, la première fois, il y a 2 ans, au mois de juin, c'était pour l'anniversaire de son père, Patrice, qui nous avait invités, et on se connaissait, mais on ne se fréquentait pas, jusqu'à ce que j'ai découvert Nicolas, que je n'avais jamais vu, et qui est un petit garçon donc autiste profond, et qui, à l'époque, quand on l'a connu, marchait difficilement, n'était pas propre, ne dormait pas, mangeait liquide. Il avait les paupières au milieu des yeux, il évitait les contacts. On a découvert. Hein. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un autiste. C'est des problèmes qui ne nous touchaient pas. Donc ça a été une surprise par rapport à ça. Et puis, suite à cet anniversaire, sa mère, Alena, nous a parlé d'une nouvelle thérapie existante et donc elle nous a proposé, comme il fallait qu'il y ait plusieurs bénévoles pour pouvoir s'en relayer si on voulait en faire partie. Donc spontanément, moi j'ai dit oui, parce que c'était un challenge. Hein. Je me suis lancé là-dedans aussi parce que j'ai eu des problèmes à la naissance avec ma fille et donc elle s'en est tirée. Et bon, quelque part, il y avait un petit ascenseur à renvoyer, donc on pouvait créer un plus aussi. En juillet 2017, la première séance a été un peu traumatisant pour moi parce que je me demandais par quelle bouille attraper et savoir si j'allais être capable de faire réagir un gamin qui ne réagissait pas. Donc Nicolas, à l'époque, restait 95% du temps dans son hamac. Donc pour l'en faire sortir, il fallait lui proposer des jeux ou qu'il veuille jouer. Et à partir de là, c'est nous qui devions imiter son jeu pour qu'il puisse en sortir et enrichir le jeu pour aller vers des choses nouvelles. Donc il était dans le hamac et le jeu, en fin de compte, qui s'est dégagé tout de suite, c'est le fait de se balancer et de faire coucou avec le hamac, le tourner, le perdre de vue, et qui viennent vous rechercher. Les premiers jeux, ça a été ça. Et donc on a commencé à jouer petit à petit. Et à l'époque, il voulait regarder les images. Il a appris beaucoup par les images. Donc le sapin de Noël, l'hélicoptère. Quand je l'ai connu, il connaissait trois mots. Tracteur, coucou et bravo. C'est tout ce qu'il connaissait. Donc là, il y avait des tracteurs. Donc on a commencé à travailler sur les tracteurs, les images. Donc c'est une séance qui dure une heure et demie. Et je peux vous assurer qu'au bout d'une heure et demie, vous êtes sur les genoux parce que ça demande une attention extraordinaire, surtout les premières séances.
Monte. Alors, mets ta chaussette comme il faut. Tu montes sur le toboggan.
Oui.
Et tu descends, hein. Tu restes pas d'en haut. Hein. Attention. Attention, Nicolas, descend. Et voilà.
Je ne sais pas si tu as le toboggan pour plus grand, mais alors ça.
On ne demande pas de connaître, d'apprendre. On nous dit d'être soi-même et de réagir comme si c'était, en fin de compte, son propre enfant. Donc, vous n'êtes pas un professionnel, vous faites au mieux. On vous donne, entre guillemets, le schéma de la méthode, ce qu'il faut faire au départ, ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Et puis, à partir de là, c'est vous, en fonction de votre personnalité, qui agit. Après, chacun fait sa séance comme il l'entend. Il n'y a pas de cadre rigide pour dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Alors on le fait comme on peut. Donc il y a quand même cette liberté énorme. Et donc il apprend comme les gamins de 2 ans. Après, vraiment le premier progrès le plus significatif, ça a été, il a un petit toboggan en plastique. Et il avait peur, il ne voulait pas monter dessus. Et puis à force de lui expliquer, on lui tient la main, tout ça, un jour, il est monté les 3 ou 4 marches du petit toboggan. Et quand il est arrivé en haut du toboggan, il s'est redressé, il s'est tenu au poignet. Et là, il a vu le monde différemment. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose de merveilleux. C'est qu'il était là-haut et il voyait différemment. Il n'était pas au niveau du sol, à 4 pattes ou quoi. Il irradiait une joie et une découverte absolument extraordinaire. Ça a été vraiment le premier truc. Le deuxième truc, c'est quand j'ai réussi à lui faire dire son prénom devant sa mère. Et donc ça a été un moment aussi assez émouvant. Et puis après, moi, je l'ai pris pour les extérieurs. C'est-à-dire le faire travailler physiquement. Donc on est allé au lac, on a commencé à faire des jeux au lac, à marcher, à aller voir le pont, la rivière. Après, on allait au village, il faisait de la balançoire, des trucs comme ça, il montait au toboggan. Donc tout ça, ça a fait que c'est des progrès hebdomadaires qui sont mesurables. Ben, maintenant, il commence à aller aux toilettes tout seul, il mange tout seul, proprement. Il aide à mettre la table ou à la débarrasser. Il est capable d'aller chercher son dessert dans le frigo et de ramener le dessert de la personne qui s'occupe avec lui, par exemple. Mais au départ, c'était un vrai challenge, parce qu'il avait 10 ans et il avait un âge mental nul, zéro. Il fait partie de notre vie maintenant, hein, donc au bout de 2 ans, il fait partie de notre famille. On en parle à la maison, on est satisfait des progrès, il devient espiègle, il fait des bêtises, et puis il sait qu'il les fait, donc il devient attachant. Voilà.
C'était « Prendre soin, un village pour élever un enfant », reportage de Sophia Fischer réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Aléna et à Maurice le bénévole, c'est Aurélie Marseille, l'attachée de production de Pieds sur Terre. Plus d'infos si vous en souhaitez sur cette famille et cette initiative, c'est sur notre site internet à la page des Pieds sur Terre.